Bonjour, nous allons commencer cette séance de séminaire qui donc accompagne le cours sur l'immigration en débat. Nous avons invité aujourd'hui Marie Veniard et Hugo Bréant. Là encore, ce sont deux présentations assez différentes, mais qui toutes portent sur le discours, le langage qui environne l'immigration. Et il y a quand même quelque chose de commun, c'est que ça concerne les discours institutionnels sur l'immigration. Je vais donner d'abord la parole à Marie Veniard, qui est donc à l'Université de Paris, qui est la fusion de Paris Descartes et de Paris Diderot, et qui est à l'unité de recherche EDA, Éducation, Discours, Apprentissage, qui est un ensemble assez important de chercheurs qui travaillent sur les questions d'enseignement du français, des apprentissages, mais aussi d'analyse du discours. Et Marie Veniard a son actif toute une série de publications déjà signées ou co-signées sur des questions assez importantes. Vous pourrez trouver, je pense aisément, sur Internet, l'article sur le multiculturalisme, la notion de multiculturalisme. Il y a un très bel article aussi, mais ça, elle va en parler. C'est sur ces conjonctions, le mais, c'est pas une politique humaine mais ferme, ou ferme mais humaine. Et c'est le sujet qu'elle va traiter en profondeur aujourd'hui, avec, vous verrez, à la fois toute une documentation et aussi beaucoup de finesse. C'est pas simplement, parce que, évidemment, cette discipline décrit. Elle ne consiste pas à dénoncer, elle ne s'appuie pas sur une idéologie pour dénoncer des pratiques. Elle décrit d'abord comment fonctionnent les discours des politiques sur ces sujets-là. Et au fond, ça nous apprend, ça nous arme en quelque sorte pour déceler les procédés qui sont utilisés par les détenteurs du discours officiel, mais qui en même temps doivent essayer de capter évidemment l'attention d'un public en misant sur un certain nombre d'évidences partagées, comme on l'a expliqué déjà lors du cours de vendredi dernier. Donc voilà ce que fait Marie Veniard. Alors Hugo Bréant, qui va lui succéder immédiatement après, est actuellement doctorant à l'INED, l'Institut d'études démographiques. Pardon ? Postdoctorant, bien sûr, postdoctorant. Pardon. Ça fait déjà 2 ans, hein, c'est ça ? Voilà. Et bien sûr, il a fait sa thèse de longue date. Et notamment, il a étudié le vocabulaire institutionnel, les justifications apportées par les institutions sur la politique migratoire. Et alors, c'est une question intéressante qu'on va pouvoir lui poser. Il y a assez peu d'institutions qui ont des discours positifs sur l'immigration, mais il se trouve que les organisations internationales font partie de celles-là. Et vous allez essayer de nous montrer un peu comment fonctionne cette rhétorique, hein, cette rhétorique qui se veut positive sur l'immigration, mais qui évidemment va complètement en rebours du discours le plus répandu sur l'immigration dans le débat public actuellement. Mais vous avez étudié bien d'autres sujets, vous avez travaillé sur l'immigration de retour notamment, vous êtes une référence sur un certain nombre de sujets comme cela, vous avez travaillé aussi sur la mobilité sociale accomplie à travers les migrations, c'est une des questions qui vous intéresse au sein de l'Institut Convergence Migration, auquel vous êtes affilié, de même que Marie Veniard. Donc je vous cède la parole, Marie, vous pouvez vous.
Bonjour, merci François pour cette introduction qui pose déjà un petit peu les bases. Les bases du positionnement qui va être le mien aujourd'hui, c'est-à-dire un positionnement descriptif. Ce qui n'exclut pas d'autres prises de position sur le discours après, mais ce qui suppose une phase d'analyse un petit peu technique avant toute prise de position. Les linguistes sont un peu des éplucheurs de syllabes, donc si vous en êtes d'accord, on va ensemble éplucher quelques syllabes. Je voudrais commencer par deux exemples que vous avez devant vous. Vous m'entendez bien ? Oui, c'est bon ? Ouais. Voilà, donc le premier, à 6 mois de la présidentielle, Marine Le Pen a présenté mardi les contours de son référendum pour combattre l'immigration. La France restera-t-elle la France où sera-t-elle ? A interrogé la candidate du Rassemblement national en présentant son projet de loi pour refondre, emporter... Je reprends la citation. Hein. La France restera-t-elle la France ? Où sera-t-elle emportée dans le torrent non maîtrisé de gigantesques flux migratoires qui balayeront notre culture, nos valeurs, nos modes de vie ? C'est un copier-coller malencontreux. Voilà, donc en tout cas, cet énoncé-là, qu'on peut comparer avec le second, qui est un tweet du compte député La République En Marche au moment de la discussion sur la loi Asile et Immigration en 2018. Ce soir, début de l'examen du projet de loi Asile dans l'hémicycle Assemblée nationale, pour une approche réaliste et équilibrée des questions migratoires entre humanisme et pragmatisme, humanité et responsabilité. Il va de soi que de ces deux exemples, l'un d'entre eux, le premier, apparaît plus extrême que l'autre, le second qui affiche au contraire une position se revendiquant de la modération. Beaucoup de travaux ont porté sur les exemples du premier type, mais c'est moins le cas de ce second type d'exemple. Et c'est sur ce second type d'exemple que je vais concentrer ma présentation. Ce que je voudrais dire aujourd'hui est relativement circonscrit. Je voudrais vous faire une petite courte introduction à ce qu'est la discipline que je pratique, l'analyse du discours, et développer de manière relativement approfondie un exemple que François Héran a évoqué, qui est celui de cette formule, cette loi qui se situe entre humanisme et pragmatisme. Ce que je voudrais vous faire saisir aujourd'hui, c'est la question de l'ordre du discours. C'est une formule de Michel Foucault. L'ordre du discours, c'est pour nous, notre objet de recherche. Et ordre du discours, ça s'entend dans les deux sens du discours comme ordre, du discours configurant la réalité, mais ça s'entend aussi comme le discours qui connaît lui-même un ordre, une organisation propre. Et c'est ça vraiment qui m'intéresse. Quelle est l'organisation du discours ? Comment il fonctionne ? Voilà. Alors, le postulat de base en analyse du discours, c'est de dire le discours n'est pas la simple représentation de la réalité. Je vais évoquer une série d'arguments. Donc on dit aussi que le discours n'est pas transparent à la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien biunivoque qui serait direct, qui serait non questionnable entre le discours et la réalité. C'est pour ça que devant des questions comme « faut-il dire migrant ou réfugié » par exemple, l'analyse du discours n'apporte pas de réponse directe à cette question, mais replacerait cette question dans le champ argumentatif des rapports de force qui passent notamment par le discours. Alors, pour revenir sur le langage et réalité, il y a une formule que j'aime beaucoup de Pierre Cossa, qui est de dire que la langue, le langage et le monde sont inséparablement distincts. C'est-à-dire qu'il y a un peu de l'un dans l'autre, il y a un peu de langage dans la réalité et il y a un peu de réalité dans le langage. Donc ça serait un premier argument pour dire que le discours n'est pas la simple représentation de la réalité. Le deuxième argument, c'est que le discours est collectif. Quand on décrit le discours, on ne va pas chercher comment telle ou telle personne parle, mais on va se demander qu'est-ce qu'il y a de collectif dans la parole de telle ou telle personne. Collectif, ça peut être des groupes à différents degrés, en fait. Hein, mais donc, il y a cette idée que, malheureusement, on n'est pas complètement maître de son dire, selon la manière dont on l'exprime nous, et que tout discours est surdéterminé. C'est-à-dire que, il y a quelque chose d'autre qui parle à travers nous. C'est le discours. Deuxième argument. Le troisième, c'est le lien entre le discours et l'action politique. Si on prend, si on observe un peu les pratiques de la vie politique, on voit bien que une partie de l'action politique, elle est discursive et qu'il s'agit de lutter pour s'approprier certains signes, s'approprier ou se réapproprier certains signes, ou au contraire pour évacuer en fait, évacuer de l'espace social, tel ou tel signe, tel ou tel mot. Donc, comme le dit Michel Foucault, le discours n'est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce pourquoi, ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s'emparer. Quatrième, toujours dans cette question de rapport entre discours et réalité, c'est de dire que tout discours est traversé par d'autres discours. Donc c'est le cas des citations, des reprises, des allusions, de la mémoire des mots. Notre discours est émaillé de cette hétérogénéité, et émaillé, des fois ça se voit, par des guillemets, mais souvent ça ne se voit pas. Et le discours fonctionne comme ça. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas dans une... désignation directe de la réalité, mais qu'à chaque fois, il y a une espèce de filtre, ce filtre des discours autres qu'on côtoie. Pour le dire dans les mots de Bakhtine, je vais juste lire la partie en gras, le discours rencontre le discours d'autrui sur tous les chemins qui mènent vers son objet. C'est-à-dire à chaque fois qu'on prend une parole, on prend la parole pour parler d'un objet de la réalité, on rencontre les discours d'autrui qui ont déjà été tenus sur cet objet, mais aussi, dans la perspective de Bakhtine, des discours qui pourraient être tenus, qui auraient pu être tenus, ou qui seront tenus, qui seront peut-être tenus. En tout cas, cette dimension des discours autres, elle est toujours présente. Dans les mots de Michel Pécheux, on dit « ça parle toujours ailleurs ». Avant et indépendamment. Voilà, c'est des postulats forts de l'analyse du discours. Donc, ce que ça veut dire, ce que ça a comme conséquence, c'est que le contexte n'est pas uniquement formé de déterminations sociales ou historiques, mais que les discours font partie du contexte. Les discours qui circulent à un moment donné, à une époque donnée, font partie du contexte. Donc au final, la problématique de l'analyse du discours, c'est d'étudier la manière dont est produit le dicible. Le dicible, ça va être ce qui peut et doit être dit à un moment donné. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Au sens où, pour les raisons que je viens de citer, le locuteur n'est pas libre, complètement maître de son dire. Donc ce que ça va se faire à travers un autre postulat assez fort, qui est que les formes linguistiques comptent, et qu'on ne dit pas la même chose en disant autrement, en employant d'autres mots. Donc finalement, la question de l'analyse du discours, vous voyez bien qu'on ne peut pas se satisfaire d'une méthodologie qui serait d'aller voir dans le dictionnaire le vrai sens des mots, et puis peut-être de le comparer avec le sens que les locuteurs ont fait usage. On considérera que le sens est une production sociale située, et située à l'intersection de trois types d'influences, qu'on va regarder et essayer de ne pas séparer, la structure linguistique, les conditions de production historique et politique, et, donc le deuxième, troisième facteur, les interactions subjectives. Donc la structure linguistique, ça va être la langue, le système, la grammaire, si vous voulez. Les conditions de production historique, sociale, politique, c'est ce qu'on peut appeler le contexte. Et les interactions subjectives, voilà, les interactions entre sujets telles que, dans le sens, ce qui revient à dire que même si là, moi, je monologue, vous avez été présent dans la préparation de mon exposé, et donc vous êtes dans mon texte, quoi, si vous voulez. Voilà. Alors, c'est tout ce que je dirais sur l'analyse du discours. Je voulais pas faire trop long. Je voudrais passer maintenant à quelques éléments assez rapides sur les travaux qui ont porté sur les discours extrêmes sur les migrants. Donc, on parle aussi, enfin, extrêmes, ça peut être aussi les discours, tout simplement les discours médiatiques, en fait. Hein. Il y a une grande littérature sur le fait que la représentation des immigrants dans les médias est largement négative. Ça passe par divers procédés. Je vais juste en mentionner deux et en illustrer un. Le premier, ça va être les métaphores. Les métaphores qui sont utilisées sont celles de la maladie, de l'invasion, de la guerre, par exemple, entre autres. Et si vous regardez cet exemple, vous avez là, vous voyez un exemple d'un quotidien britannique qui dit « On n'a plus affronté Saddam Hussein, mais on ne peut pas arrêter des envahisseurs sur nos rivages. La Grande-Bretagne abandonne le combat sur l'asile ». Donc là, on a des métaphores guerrières, la métaphore de l'invasion. Et en fait, si on regarde... Donc j'ai repris le premier exemple que j'ai cité, hein, de Marine Le Pen cité dans Le Point, et on retrouve ces mêmes métaphores quand elle dit « le référendum pour combattre l'immigration ». Donc « combattre », ça évoque la métaphore de la guerre. Et c'est intéressant aussi de dire « le référendum pour combattre l'immigration ». Enfin, ça... ça fait un peu un mélange des registres. Donc combattre, on voit la métaphore aussi, une métaphore qui est très présente, c'est la métaphore des liquides, donc le torrent, les flux, pareil, Baléron, on a une métaphore de la destruction. Voilà, donc c'est des métaphores qui sont très très stabilisées. Cette représentation négative, elle peut aussi venir du fait que les causes des migrations sont peu développées ou alors présentées de manière confuse sans contextualisation, par exemple, sans parler du changement climatique, ce genre de phénomène. Au niveau des métaphores, en fait, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'elles sont assez stables. Je projette un graphique tiré d'un article de Charlotte Taylor, et elle a comparé donc une série de métaphores, donc par exemple celle des liquides qu'on a vu, hein, le torrent, l'inondation, etc. Et on voit en fait qu'elle apparaît, donc là c'est uniquement dans le Times, mais dès 1850, et qu'elle est stable tout au long de la période. De même que la métaphore de, un peu plus au milieu, là, la métaphore de l'objet. Certaines métaphores, comme celle des animaux, donc les animaux, ça va être... Il y a deux types de lexicalisation. Ça va être soit le troupeau, hein, où on les a rassemblés, mais c'est des mots en anglais qui... Enfin, c'est le mot troupeau lui-même, ou... des mots qui évoquent la question des animaux et du rassemblement spécifiquement pour ce type d'animaux. Et c'est aussi la métaphore de la vermine. Et donc vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle est donc dans les années 20 et 30, elle est présente, cette métaphore des animaux, et elle réémerge en 2010. Donc elles sont assez stables. Donc là, finalement, il y a une assez grande unanimité des chercheurs pour dire que les discours dans les médias sont assez négatifs, ce qui pose la question des discours institutionnels. Alors, je vais pas trop développer la définition, mais je donnerai deux, trois caractéristiques qui portent sur la question du discours. Donc je reprends une définition de Claire Auger qui parle de discours autorisés au sens où ce sont des discours qui font autorité sans s'imposer par la force. C'est-à-dire qui font autorité par parce qu'ils se présentent comme des discours présentant un surcroît de crédibilité. Ce sont des discours qui jouent non pas sur la force, mais sur la confiance. Et c'est ça qui... voilà, c'est l'éthos qui est incarné, quoi. Donc la question, c'est comment vont être formés les énoncés pour que ces énoncés, ces phrases, suscitent la confiance, suscitent l'adhésion, sans recourir à une pression, une obligation, mais suscitent l'adhésion par la confiance et la crédibilité. Alors, il y a deux phénomènes qui sont mentionnés dans la littérature. Donc là, je pense aux travaux d'Alice Crick-Planck et de Claire Auger. La première manière de rendre des énoncés acceptables, ça serait de réduire la diversité des énoncés possibles. Et ça passe par le figement. Toutes ces expressions, le figement, donc la stabilisation de certaines formules du type économie de la connaissance, développement durable, ou pour les migrations, peut-être que vous avez déjà entendu cette séquence qui est des migrations ordonnées et sûres, par exemple. Donc le fait de diffuser des segments comme ça préconstruits, c'est du prêt à parler, si vous voulez, ça va permettre de réduire la diversité de ce qu'on peut dire, en fait. Ça passe aussi par le figement, non pas des formules, mais du sens. Là, ça va être le travail qui est opéré, par exemple, dans les glossaires. Donc, par exemple, l'Union européenne a tenté de figer une définition d'intégration. Et cette définition, donc, c'est plusieurs formulations, mais enfin, ça peut être un processus réciproque d'acceptation mutuelle entre migrants et sociétés d'accueil. Vous voyez, donc en figeant non pas le mot, hein, le mot, voilà, il circule depuis les années à peu près 80 dans les discours institutionnels sur l'immigration, mais le sens en particulier. Le deuxième aspect qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est d'effacer la conflictualité. C'est-à-dire que les discours institutionnels vont utiliser différentes techniques pour effacer les traces de dissensus. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est très important, notamment dans les institutions basées sur le multipartisme, puisqu'en fait, il faut toujours qu'il y ait un consensus et que tous les pays soient le plus d'accord possible. Et donc tout ça, ça conduit les institutions à développer un éthos paradoxal qui va être un éthos d'autorité, mais qui va chercher à s'imposer sans recours à la force. Voilà, je vais directement, passer à l'étude de cas et on va s'intéresser à la dialectique humanité-fermeté. Dans les discours du gouvernement français en 2017-2018, au moment de la promotion et du vote de la loi Asile et Immigration. Donc vous avez là quelques extraits de ce qui est donc ce que nous on appelle un corpus, différents énoncés qui comportent ces séquences. Donc je vais les lire en partant de votre gauche. Donc un tweet d'Emmanuel Macron. Dans ce contexte, il nous faut raison garder, ne rien perdre de notre coopération, ne rien perdre de notre principe et agir pour des solutions efficaces et humaines. En dessous, on a Gérard Collomb, qui était donc ministre de l'Intérieur. Alors que je suis ici ce matin à Calais, j'ai tenu à accorder une interview à Nord Littoral, j'agirai ici avec fermeté et humanité. En haut de l'autre côté, à propos donc du texte de loi, ce texte qui allie humanité et fermeté offrira une meilleure intégration à ceux qui fuient les persécutions tout en renforçant l'impérative maîtrise de notre immigration. Plus bas, toujours au moment du débat de la loi, de l'examen de la loi. Ce tweet que j'ai déjà lu, donc qui promeut une approche réaliste et équilibrée des questions migratoires entre humanisme et pragmatisme, humanité et responsabilité, etc. Donc vous voyez que là, en fait, il y a quelque chose qui est figé, enfin, relativement figé, et qui est répété. Pour l'observer, j'ai constitué un corpus qui, ça c'est un peu technique, mais enfin qui comporte l'analyse de différents discours d'Emmanuel Macron et de Gérard Collomb, donc deux pour chacun, et puis donc là ces discours-là qui ont été analysés dans leur exhaustivité, et puis une série de tweets de documents institutionnels d'écrits plus anciens pour voir un petit peu la circulation de la formule. Bon, je vais appeler ça une formule. Hein. Cette formule, je ne vais pas parler de son début, mais c'est un peu voilà, une quête des origines un peu vaine, j'y reviendrai à la fin, mais c'est quelque chose qu'on trouve dès les documents de campagne. Donc vous avez sur votre gauche un extrait d'un document de campagne d'Emmanuel Macron, « Fier d'être français, exigence et bienveillance ». Dès juillet 2017, dans un discours, donc un discours à Orléans qui a été prononcé lors de cérémonies de naturalisation, on peut lire « C'est ce travail qui compte, que nous devons conduire avec autorité et humanité, avec générosité et pragmatisme. » Un peu plus loin, c'est une question d'unité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Là aussi, l'humanité se conjugue avec l'efficacité. Alors, vous pourriez me dire, ben, ça se répète, est-ce que ça ne serait pas des éléments de langage ? Vraisemblablement. La catégorie de l'élément de langage, cependant, c'est une catégorie des communicants politiques, hein, donc de professionnels de la communication politique. Et cette pratique, alors, en analyse du discours, c'est vrai qu'on définit la communication comme une pratique visant à favoriser la reprise d'énoncés, à anticiper la reprise d'énoncés. Mais le fait que ça soit un élément de langage, ça n'empêche pas que on a, quand on entend ça, efficacité entre humanité et efficacité, il y a ce « et », mais on se dit, il y a quelque chose qui... Est-ce que c'est vraiment un « et » qu'il y a derrière ? Alors, ça, c'est la question que je me suis posée. Et cette question... Donc, en fait, ça justifie de l'analyser, cette formule, en dehors du fait que ça soit vraisemblablement un élément de langage. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de savoir comment ça fonctionne comme ça. Pourquoi ce « et » on a l'impression que ce n'est pas tout à fait un « et ». Alors, pour l'analyser, je suis passée par la comparaison entre deux modes. Le mode « élaboré », voilà, qui est un peu plus développé. Donc vous avez un exemple ici, donc ça c'est dans un même discours, donc avec humanité, avec clarté, mais là aussi dans un ordre que nous avons défini et entendons faire respecter. Donc vous avez des éléments comme ça, souvent avec mais d'ailleurs, mais vous avez des fois où c'est juste, c'est juste à poser à la file ou avec et qui signifie qu'une addition. Donc c'est ce que vous avez un peu plus bas. Ils attendent l'ordre, l'autorité, là où elle doit être exercée, l'humanité à chaque instant. Vous voyez, là, il y a juste des virgules, l'ordre, l'autorité, virgule, l'humanité. D'accord ? Donc c'est une liste. Ce mode-là, bon, je l'ai appelé le mode formulaire, au sens où il est moins explicite, quoi. C'est un peu du tout fait. Alors... Donc, c'est ça, les deux modes. Bon, tendanciellement, on trouve le mode élaboré plutôt dans les discours publics et puis le mode formulaire plutôt dans les tweets, mais c'est pas une distinction ferme. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la dimension de patron. Donc patron, c'est, ça veut dire qu'il y a comme un modèle. Et ce modèle, c'est deux noms ou adjectifs, sans coordonnant ou avec « et », dans le mode formulaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de variations, en fait. Donc on trouve alors des petites variations, hein, on est vraiment dans des voilà. Mais on a, par exemple, on a vu, exigence et bienveillance. Mais on peut avoir ordre, autorité et humanité, fermeté et justice, efficacité et humanité, pragmatisme et humanité. Dans l'autre sens, je reviendrai sur l'ordre, hein, on a humanité et pragmatisme. Vous avez aussi générosité et pragmatisme, humanité et efficacité, humanité et dans le respect des lois de la République, ou courtoisie et fermeté. Alors, pourquoi comparer comme ça? Pourquoi faire des listes, en fait? Qu'est-ce que ça révèle, cette liste? Est-ce que c'est juste une variation? Bon, déjà, oui, on observe qu'il y a cette variation. Mais ce que ça fait... ça a un effet, en fait, sur les mots qui entrent dans le schéma, qui entrent dans le patron. Parce que, du coup, voyez, si vous regardez par colonne, ben, en fait, ça veut dire que exigence, c'est pareil que ordre, c'est pareil que fermeté, c'est pareil qu'efficacité, et c'est pareil que pragmatisme. Que si ça apparaît dans le patron au même endroit, quoi, vous voyez, dans le côté fermeté, eh bien, il y a quelque chose qui... Le patron fabrique une synonymie entre ces différents mots. Inverse, donc ça veut dire que vous avez justice égale humanité égale courtoisie. Ça veut dire que si ça rentre dans le patron, il y a quelque chose qui est synonyme. Alors évidemment, ce n'est pas des synonymes du dictionnaire, hein, mais c'est des synonymes en discours, qui sont créés par les discours. Mais si ça crée des synonymes, mais en fait, ça crée aussi des antonymes. Des antonymes, donc c'est l'inverse, c'est deux mots qui ont un sens contraire. Petit et grand, voilà, ont un sens opposé. Mais là, du coup, ça veut dire qu'en fait, devant cette sensation que, quand on dit efficacité et humanité, c'est pas comme quand on dit d'un café qu'il est doux et subtil. Il y a quelque chose d'un peu dissonant quand on dit efficacité et humanité. Comme si l'efficacité, c'était un peu le contraire de l'humanité. Et donc, du coup, ça veut dire que ça fabrique des antonymes, le patron fabrique des antonymes, et que vous avez, par exemple, justice qui va s'opposer à fermeté. Ou efficacité s'opposerait à humanité, pragmatisme s'opposera à humanité, ou pourquoi pas courtoisie s'opposerait à fermeté. Vous voyez qu'il n'y a rien dans la langue, dans le système, dans le dictionnaire qui dit courtoisie et fermeté, ce sont des antonymes. Et donc ça va être un effet du patron, du fait que dans ce contexte-là, alors attention, hein, parce que c'est dépendant du contexte, c'est-à-dire que dans ce moment-là, 2017-2018, quand on met ce type d'adjectif accolé par le coordonnant « et », se crée un effet d'opposition entre les deux adjectifs. Et donc là, vous voyez que c'est proprement un effet du discours. Je parlais de l'ordre du discours, c'est bien une production du discours. Et donc ça n'a rien à voir avec la réalité, hein, ce n'est pas imposé par la réalité, ce n'est pas motivé par la réalité. Et incidemment, ça fait que le sens des mots est modifié, en fait. Parce que si vous opposez humanité, par exemple, à efficacité, ben vous voyez que, incidemment, vous redéfinissez ce que c'est que l'humanité. L'humanité... C'est une série d'actions, mais qui se définissent surtout par le fait que ce n'est pas efficace. Incidemment, vous redéfinissez aussi efficacité. C'est une série d'actions, un état de choses, qui se caractérise par le fait d'être tout sauf humain, enfin humanitaire. Voilà, donc c'est, les deux termes se redéfinissent mutuellement. Vous aurez noté également l'absence du nom humanitaire dans ces listes, hein, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, d'où vient l'effet de malaise, en fait ? L'effet de malaise, il vient du fait que, en fait, ce « et », derrière ce « et », ce n'est pas un « et », c'est une concession. Et ça, on le voit en regardant les modes élaborés. C'est le « mais » qu'on a cité tout à l'heure. Comment ça fonctionne, la concession ? Il y a un argument « a », et on oppose à cet argument « a » un argument B qui va être plus fort que l'argument A. Donc, je reprends le premier exemple, l'exemple 3, là. Il y a un devoir d'humanité, mais il y a aussi le devoir de respecter la loi de la République. Okay ? Et donc, ce que crée la concession, c'est une hiérarchie entre ces deux éléments. L'exemple, je reprendrai un exemple voilà, classique d'argumentation qui est... ce restaurant est bon mais cher. Si ce restaurant est bon mais cher, vous n'allez pas y aller, par exemple. Mais si le restaurant est cher mais bon, là, la qualité de la nourriture justifie d'y aller. Donc ça veut dire qu'en fonction de la place de l'élément, la conclusion que vous défendez n'est pas la même. OK ? Donc voilà. Donc là, en fait, devoir d'humanité, c'est l'argument A. Et devoir de respecter les lois de la République, c'est l'argument B. Et ce qui l'emporte, disons, c'est l'argument B. Okay ? Alors, ce qui se passe aussi, c'est que cette concession, elle est dialogique. Alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas simplement il y a un argument A et il y a un argument B, mais tout ça s'est pris dans un système d'interaction et dont j'ai parlé au début, en fait. Donc en fait, pour verbaliser la séquence de la concession, ça serait « vous me dites A, mais moi je vous réponds B », grosso modo. Et on trouve dans les textes, hein, si vous regardez le premier exemple, l'allusion en fait au fait qu'il y aurait des gens qui diraient A et il y aurait des gens qui diraient B. Donc par exemple... Premier exemple, vous le savez, donc c'est Gérard Collomb, cette question est très souvent caricaturée dans une opposition factice entre les tenants de la générosité et les tenants de la fermeté. Donc ça veut dire qu'il y a des discours qui sont tenus à propos, il y a des discours qui sont tenus par des groupes qui disent moi je suis plutôt A, moi je suis plutôt fermeté, moi je suis plutôt humanité. Alors, dans le corpus, bon, c'est le gouvernement qui dit B, d'accord ? On voit très clairement, il y a un ordre qui est très, très régulier, c'est, pour faire vite, humanité, mais ordre de la République, d'accord ? C'est l'ordre qui est le plus souvent assumé par le gouvernement, et donc ça veut dire que la position qui est assumée, l'argument qui l'emporte, si vous voulez, c'est celui de la fermeté, de l'ordre, etc. Donc là, vous voyez, à chaque fois, hein, j'ai mis... en rouge, les ordres, le côté ordre, mais voilà. Alors, donc c'est le gouvernement qui dit B. Bon, ok. Maintenant, qui dit A ou à qui le gouvernement fait-il dire A ? Parce qu'en fait, hein, tout ça, c'est une construction discursive. Déjà, alors bon, forcément, on va se douter, c'est des positions un petit peu de gauche, hein, à qui on attribue la positionnement A. Mais des fois, il y a des indices un peu plus fins. Et si vous regardez dans ce texte-là, vous avez la question de l'accueil inconditionnel, hein, donc l'accueil inconditionnel dans l'hébergement des femmes et des hommes, etc. Et donc c'est ça qui est contesté, qui est mis en balance, accueil inconditionnel, qui est mis en balance avec l'esprit de responsabilité. Et accueil inconditionnel, c'est une expression qui est dialogique et qui renvoie au vocabulaire des associations d'aide aux personnes migrantes. Donc finalement, ce A, celui qui tient la position A, ça serait, pour tel que c'est construit, hein, ça serait les associations. Alors, je vais rapidement évoquer cette question. Effectivement, hein, donc vous voyez que pour que tout ça fonctionne, il faut qu'il y ait... Ok. Il faut qu'il y ait, en fait, qu'on pense que... Enfin, voilà, nous, on parle d'interdiscours, mais que circule, en fait, dans notre communauté discursive, un énoncé qui serait dans notre système politique partisan, on ne peut pas à la fois se revendiquer de la valeur d'humanité et de la valeur de responsabilité. Et donc, du coup, quand le gouvernement dit on va faire entre humanité et fermeté, c'est une manière de s'opposer à ça, en fait, de s'opposer à cette espèce de d'énoncé préconstruit. La question, évidemment, c'est est-ce que... Est-ce que ça marche de dire est-ce que la position du gouvernement qui est de dire on va faire entre humanité et fermeté, est-ce que ça marche en fait? J'ai déjà montré qu'il y a une concession. Je vais montrer ça. Hein. Donc effectivement, ce qui se passe, c'est que on a vu qu'avec le mob élaboré, il y avait une concession. Et dans le mode formulaire, l'hypothèse que je défends, c'est que la concession n'apparaît plus, qu'elle est masquée par le « et », mais qu'en fait, elle est toujours sous-jacente. Et pourquoi, en fait, quel argument j'ai pour le dire? Eh bien, ça va être que, déjà, l'ordre. Il y a une grande unité. Quand le gouvernement reprend cette formule, c'est toujours efficacité, humanité et efficacité. Donc ça veut dire que l'ordre de la formule, il est similaire à l'ordre en mode élaboré. Donc ça veut dire qu'il y a une congruence dans les deux manières de dire. Mais ce qu'on voit aussi, c'est des effets pour neutraliser la hiérarchie entre efficacité et humanité. Et donc s'il y a des efforts pour neutraliser cette hiérarchie, c'est bien que cette hiérarchie, elle est perçue par les locuteurs qui tentent de mettre en œuvre des stratégies pour la neutraliser. Donc, par exemple, voilà, alors, dans certains discours, les locuteurs vont alterner. Ils vont faire beaucoup dans le sens normal, par exemple, dans ce discours du 16 janvier, beaucoup dans le sens humanité mais fermeté, donc c'est le sens normal. Puis à la fin, hop, on inverse l'ordre, l'autorité, l'humanité à chaque instant, et on termine sur humanité. Donc ça va être un premier... Mais il y a des effets plus marquants, où les locuteurs tentent de reprendre, je reprends l'expression à Roland Barthes, de tricher la langue, hein, d'essayer de voir si on ne pourrait pas subvertir cet ordre que la langue nous impose, la succession linéaire des mots, en fait. Parce que c'est cette succession linéaire des mots, on est obligé de dire humanité et fermeté, ou fermeté et humanité, on ne peut pas dire... Vous voyez, on ne peut pas les superposer à l'oral, on ne peut pas, en fait. Donc, on est bloqué par la linéarité. Donc, ils tentent, par exemple, des choses comme humanisme réaliste, de faire encore plus, de réduire la distance entre les deux pôles pour tenter de faire exister cette position intermédiaire, cette position d'équilibre entre les deux. Il y a aussi, alors peu, mais au moins un chiasme. Donc c'est ce que vous avez en bas. Donc c'est un discours d'Emmanuel Macron avec autorité et humanité, avec générosité et pragmatisme. Donc vous voyez, j'ai remis en bas, avec les mots fermeté, humanité, pour clarifier. On a fermeté, humanité, humanité, fermeté. Donc on a bien cette construction symétrique qui est celle du chiasme. Et qui, dans cette volonté de mettre les deux sens à la fois dans le même énoncé, ça dit bien quelque chose du fait que l'ordre des éléments, l'ordre des éléments est bien signifiant, et que cet ordre, il est signifiant et qu'on cherche à s'en échapper. Voilà, mais il y a toujours un pôle qui prime, puisqu'on doit toujours... la langue est comme ça, la langue nous force... et donc là, ça finit sur fermeté. Juste, je vais pour terminer montrer quelques exemples pour souligner en fait la circulation de ce modèle et pour aussi montrer que c'est pas simplement Emmanuel Macron qui dit telle et telle chose. En fait, c'est très, très large. Là, vous avez donc l'Organisation internationale des migrations, et il parle d'une gouvernance plus efficace et plus humaine de la migration. On retrouve le patron. Ensuite, je vais juste lire les passages, mais là, vous avez, donc c'est récent, c'est le Maroc qui protestait contre la réduction du nombre de visas. Et vous voyez que c'est le chef de la diplomatie marocaine qui parle de la politique migratoire du Maroc, qui se fait avec une logique de responsabilité et d'équilibre. On retrouve, pareil, les deux éléments. Chez François Hollande, le fondement même de notre République, être ferme et en même temps être humaine. 2013. 2003, rapport de Thierry Mariani, la recherche constante d'un équilibre entre efficacité et humanité. C'est le même. Après, on retrouve, mais pas avec la formule, mais ce même balancement entre humanité et fermeté, chez François Mitterrand, par exemple. Ce qui est hors la loi et au clandestin nous contraint de le refuser. Rien ne nous interdit donc de l'expulser, rien ne nous interdit de le faire dans des conditions qui marquent le respect que l'on doit à tout être humain. Au XIXe siècle, c'est l'accueil des réfugiés, les secours accordés par la générosité française au milieu des circonstances impérieuses sont nécessairement temporaires. Toujours généreuse et bienfaisante, l'administration veut l'être à propos et en connaissance de cause, donc une espèce de restriction de l'accueil. Donc évidemment, ça s'articule avec la question de asile et migration, de distinguer les deux et de faire des profils du bon réfugié et du mauvais migrant. Donc là, je renvoie aux travaux d'Hélène Thiollet, de Karen Akoka, Michel Agier, qui ont montré ça. Et d'une certaine manière, c'est une autre manière de le montrer avec des données langagières. Parce qu'en fait, dans les textes, je ne vais pas montrer d'exemple, mais l'efficacité, c'est pour les migrants, et puis l'humanité, c'est pour le respect du droit d'asile. Mais pour compliquer les choses, je voudrais souligner que, en fait, ces formats de deux adjectifs qui vont avoir un sens opposé dans les discours, en fait, on les trouve très, très fréquemment, notamment dans le discours publicitaire. Donc le matelas ferme et accueillant, être joli, être confortable, l'excellence du vin quotidien, le café doux et fort, voilà, un quartier calme et vivant. Bon, des fois, Et en fait, il y en a énormément. Et donc, c'est pour dire que c'est aussi quelque chose qui est très ancré dans la langue. C'est pas une invention des communicants. Tous ces mouvements d'équilibre, de réciprocité, etc., c'est caractéristique de discours institutionnels. J'ai appelé ça la rhétorique de l'équilibre, mais je vais m'arrêter là pour pas trop dépasser. Les droits et des devoirs, etc. Et donc, pour finir, j'espère que j'ai pu illustrer la question du discours comme ordre configurant et comme matériau ordonné. Merci.